temps électriques, l'occasion de s'interroger sur l'avenir de la justice que nous nous préparons. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission des temps électriques. Le 13 juin était promulguée la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic. La veille, le Conseil constitutionnel rendait sa décision sur le texte. Je suis donc très heureuse de pouvoir vous proposer aujourd'hui un échange riche avec deux invités de choix. Aurélie Bretonneau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général du Conseil constitutionnel et avec vous Laurent Bonelli, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur en sciences politiques à l'Université Paris-Nanterre, sociologue. Vous êtes spécialisé sur les questions de contrôle social, sécurité urbaine, surveillance, lutte contre le terrorisme et contre la radicalisation. Alors, quelques jours à peine auront suffi pour vous réunir tous les deux sur ce plateau des temps électriques. Un grand merci d'avoir accepté cette invitation dans un calendrier très contraint.
Salut, t'es dispo ?
Oui, t'as besoin de quoi ?
Possible de se faire livrer un gramme de coke ?
Ok, adresse.
Rue du Général de Gaulle.
Ok, 70 euros. Livraison dans 22 minutes.
Parfait, merci.
Des messages comme celui-ci, il s'en échange des milliers chaque jour en France. La livraison de drogue à domicile explose.
Ça peut se faire en trottinette, ça peut se faire en vélo, ça peut se faire en scooter, ça peut se faire en bus, ça peut se faire en voiture. Ça se fait même à pied.
Dans les grandes villes, les sous-préfectures, les villages. Plongés dans une France sous stupéfiants, à travers les destins croisés de dealers et de consommateurs.
Là, on va être sur de la cocaïne. Là, on va être sur de l'herbe, MDMA, ecstasy. En fait, c'est comme un supermarché, mais c'est en ligne, on fait ses courses en ligne.
Une jeune femme, ex-accro à la livraison.
Il y a juste à leur envoyer un message avec la quantité qu'on veut, l'adresse, et puis bah, on est livré tout de suite en fait.
Et un député qui s'exprime pour la première fois sur ses addictions.
Quand j'ai été réélu en 2024, pour 3 mois, j'ai rien fait. L'occasion s'est présentée, et après,
mon emploi du temps, ma vie. Dedans, je planifiais le fait de pouvoir prendre la drogue.
Avec toujours le mensonge du contrôle, comme si je contrôlais alors que je ne contrôlais rien du tout en réalité.
Nous allons vous raconter comment les nouvelles méthodes des trafiquants augmentent le nombre de clients. Comment les dealers s'y prennent pour rendre accro de plus en plus de consommateurs.
Tu fais une publicité avec tes prix, tu relances le client. Ça lui donne envie, c'est comme du marketing.
Une France où désormais ce n'est plus le client qui va chercher de la drogue, mais la drogue qui vient au client.
Cet extrait du reportage envoyé spécial « Drogue à domicile » diffusé récemment sur France Télévisions permet de lancer le propos. La France submergée par le narcotrafic. Submersion, c'est l'image qui s'impose pour décrire le phénomène auquel la France est confrontée, tant les routes par lesquelles la drogue est acheminée dans notre pays sont nombreuses, tant les moyens par lesquels elle est introduite sont variés, tant les façons de la distribuer et de la vendre sont multiples. Ce constat est posé d'éléments introductifs du rapport rendu en 2024 par la commission d'enquête sur l'impact du narcotrafic en France. Ce sont des mots forts, trop forts peut-être, on pourra en discuter, en tout cas des mots qui manifestement veulent marquer les esprits. Quoi qu'il en soit, banalisation des drogues dures, émergence de produits nouveaux via des drogues de synthèse, telle est la réalité de l'évolution de ce trafic qui fait des centaines de morts par an, sans compter la criminalité connexe qui en découle. Parler de narcotrafic marque pourtant un tournant important dans la politique pénale, qui jusqu'alors visait la répression du trafic de stupéfiants, longtemps définie seulement par le Code de la santé publique et introduite dans le Code pénal en 1994. Plus de 20 ans après, force est de constater que ce trafic s'adapte à la réponse pénale qui tente de l'endiguer, devenant plus complexe à démanteler encore, du fait de groupes structurés dont les méthodes évoluent. C'est tout un business qui se joue, à tel point qu'on en vient désormais à parler d'ubérisation du trafic de stupéfiants. Afin de lutter contre l'expansion du phénomène, le législateur français a initié une réflexion, aboutissant, au terme de débats parlementaires parfois houleux, à une loi promulguée le 13 juin, se donnant pour objectif de faire sortir la France du piège du narcotrafic. Nouveau parquet national anti-criminalité organisée, fermeture des commerces qui blanchissent l'argent de la drogue, quartier de prison sécurisé pour les narcotrafiquants, technique d'enquête renforcée, voici quelques-unes des mesures adoptées. Si la compréhension de ce nouvel arsenal juridique spécialisé n'est en soi pas aisée, c'est au-delà une réflexion sur son efficacité pour la lutte contre ce phénomène que l'on peut initier ensemble ici. Pour cela, temps électrique oblige, c'est sur le volet numérique de cette loi que l'on va se concentrer dans un instant avec nos invités.
Take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of cheater little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the street light.
Been spending most of the night living.
Extrait du titre Gangsta Paradise pour ouvrir cet échange. Alors loin du paradis, le monde du narcotrafic appelle une réalité bien différente. Réalité sociologique, réalité juridique. On va en parler avec vous, Laurent Bonelli, Aurélie Bretonneau. Pour débuter cet échange, on peut débuter par une présentation sociologique du narcotrafic. Laurent Bonelli, vous êtes sociologue, je l'ai dit, spécialiste en sciences politiques également. On a besoin de vous pour comprendre l'objet de cette discussion juridique. Le narcotrafic, c'est d'abord l'histoire d'une notion. Faire sortir la France du piège du narcotrafic, on semble loin ici du simple trafic de stupéfiants, j'en ai dit un mot dans l'introduction, et pourtant, est-ce qu'on parle de quelque chose de si différent ?
Oui, alors c'est une bonne ouverture dans la mesure où les mots ont évidemment un sens, et on perçoit évidemment un glissement sémantique, je dirais très largement, en passant du trafic de drogue au narcotrafic, puisque le narcotrafic, vous le voyez bien, ça enferme un imaginaire. Ça enferme un imaginaire qui est, y compris, relayé par la culture, on va dire, du divertissement. Hein. On a tous en tête l'émission Narco sur Netflix ou ce genre de choses. Bon, quand on parle évidemment de narcotrafic, on a avec ça une image de la Colombie, du Mexique. Et d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur lui-même, Bruno Retailleau, explique que la France est en train de se mexicaniser. Bon, voilà. Et donc, on a cette dimension extrêmement importante. Pourtant, je dirais, si on revient un petit peu... Si on remet un peu les pieds sur terre, au fond, est-ce que la France vous semble aujourd'hui menacée par des organisations criminelles armées qui imposeraient leurs lois sur des territoires entiers ? Bon. Je suis très content que nous n'en soyons évidemment pas là. Mais vous voyez bien que glisser sur cette dimension, c'est quelque chose d'important. C'est grandir la menace pour se grandir soi-même. Je dirais, c'est une stratégie assez ordinaire, je dirais, de ce qu'on pourrait appeler une forme de démagogie punitive, hein, qui se met en place depuis une trentaine d'années en France, mais ailleurs, et qui a d'ailleurs été très bien analysée aux États-Unis. Hein, je pense notamment aux travaux, par exemple, de Simon, c'est Governing Through Crime. Hein, comment est-ce que on gouverne à travers la peur? Comment, à partir d'un certain nombre de faits divers, je dirais, on monte une réalité, si vous voulez, on fait de certains faits divers l'idée qu'on aurait là un reflet de phénomènes sociaux. Et ça, je pense que c'est évidemment extrêmement important. Donc, on y reviendra tout à l'heure. On a à la fois, effectivement, en France, une augmentation qu'on peut documenter de la consommation de stupéfiants, mais en même temps, on a une diminution sur la longue période des homicides, des violences aux personnes et ce genre de choses. Et vous voyez bien qu'on a tout à fait intérêt, je dirais, à revenir un petit peu, à remettre un petit peu les pieds sur terre. Et juste pour dire un mot, vous voyez, c'est quand même très intéressant sur cette mise en scène de la menace. Vous voyez, un rapport parlementaire, une loi vraiment qui s'appelle « Sortir la France du piège du narcotrafic ». Vraiment, je dirais, on est là. Et on voit bien que par contre, vous voyez, cette sémantique absolument extraordinaire, vous voyez, exceptionnelle, dangereuse, de la dangerosité, évidemment, appelle des mesures exceptionnelles. Qui implique, je dirais, quasi mécaniquement, vous voyez, de sortir du cadre ordinaire de la loi Ce qui nous amène évidemment sur la loi dont on est en train de discuter.
Oui, alors en transition, je pense qu'on peut citer des termes assez intéressants que prenait l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives quand il disait que, effectivement, les formes et l'organisation du trafic de drogue sont aussi la résultante d'une politique publique et des modes d'intervention des institutions chargées de sa mise en œuvre. Donc effectivement, on en est là, on va en discuter. Et on peut parler à présent de cet élan législatif par cette loi promulguée le 13 juin. Qui se donne cet objectif que vous avez rappelé de faire sortir la France du piège du narcotrafic. À plusieurs égards, on va en parler. Déjà, parce qu'au travers de cette loi, on assiste à une extension des techniques d'enquête au service de la lutte contre le narcotrafic. Plusieurs dispositions ont pu être votées en ce sens pour accroître ces techniques d'enquête. Certaines ont pu être déclarées conformes à la Constitution, d'autres ont fait l'objet d'une censure, totale ou partielle. On peut faire le point ensemble au regard de ce volet numérique, en prenant déjà peut-être les dispositions qui concernent la lutte contre le trafic en ligne. Certaines mesures visent à lutter contre ce trafic en ligne. Certaines ont été déclarées conformes à la Constitution. Donc je m'adresse à vous, pardon, Aurélie Bretonneau, concernant le retrait et le blocage de contenu en ligne qui propose l'achat de stupéfiants. Ici, on a un Conseil constitutionnel qui a été saisi d'un grief lié à une méconnaissance de la liberté d'expression, au motif qu'un contenu illicite qui tient à la cession ou à l'offre de stupéfiants serait difficile à identifier et que la gravité de l'atteinte portée à l'ordre public par de tels contenus ne justifierait pas une telle mesure. On aboutit à un texte qui a fait l'objet d'une réserve. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce cheminement ?
Je vais essayer, à tout le moins.
On en a besoin pour comprendre le texte.
Effectivement, l'article 28 de ce qui est devenu désormais la loi promulguée permet le retrait de contenu en ligne qui procède à l'offre en vue de sa cession de illicite, évidemment, de produits stupéfiants destinés à une personne en vue de sa consommation personnelle. C'est un dispositif qui existe déjà, mais pour de toute autre sorte de contenu, à savoir les contenus à caractère terroriste et les contenus pédopornographiques qui sont évidemment d'un tout autre registre que la vente de même illicite de stupéfiants. Le Conseil constitutionnel évidemment est très attaché à la protection de la liberté d'expression qui est un des droits constitutionnels les plus anciens et qui par ailleurs fait partie de ces principes constitutionnels qui sont une condition de beaucoup d'autres. Sans liberté d'expression, sans liberté de communication, beaucoup d'autres libertés sont entravées en aval. Et il exerce donc un contrôle particulièrement strict sur cette question. C'est un principe ancien et une protection ancienne, mais qui a fait l'objet d'une forme d'actualisation par le Conseil constitutionnel avec l'émergence des contenus en ligne. Et le Conseil constitutionnel a réaffirmé avec force, il l'a fait en 2009 pour la première fois de façon très nette avec la loi Hadopi, il l'a refait en 2020 au sujet de la loi contre la haine en ligne, une protection de la liberté de communication par le biais d'Internet, des réseaux sociaux, des moyens de communication électronique qui n'étaient évidemment pas l'esprit des auteurs de la Déclaration des droits de l'homme. Et donc, il fait ce contrôle extrêmement strict. Alors, il était saisi ici du grief que vous avez rappelé. C'est contraire à la liberté d'expression, d'autant plus que on sait bien que les trafiquants de drogue évitent tout de même d'appeler leur site acheterdeladrogue.com attention, session illicite. Voilà, donc ça peut être un tout petit peu dissimulé. Et on nous disait, le tri va être extrêmement difficile à opérer par l'autorité administrative et donc le risque est que des moyens d'expression soient saisis via cette offre en ligne. Alors, le Conseil constitutionnel, dans un premier temps, c'est exactement ce que vous disiez sur la question de faire grandir ou pas la menace. Dans son contrôle, il vérifie toujours que l'objectif qui est poursuivi, en l'occurrence l'ordre public, est justifié par sa gravité. L'entrave à la liberté qu'on met en face dans le cadre d'un contrôle de proportionnalité. Donc là, il était saisi de quelque chose qui peut apparaître moins grave que des contenus terroristes ou pédopornographiques, mais qui quand même objectivement grave, puisqu'il s'agit bien exclusivement de la cession illicite de stupéfiants. Il ne s'agit pas d'avoir des débats sur des médicaments qui seraient autorisés, pas autorisés. Voilà, il faut une offre illicite. Donc on a vraiment une infraction. Et face à cela, la liberté d'expression, c'est pas la liberté d'expression traditionnelle, d'expression d'un contenu, d'expression d'une idée qui est, elle, protégée par la Constitution. Et donc, dans la pesée de proportionnalité, ce type d'expression et de communication-là pèse évidemment assez peu lourd dans la balance des proportionnalités. Et donc, il n'y avait pas vraiment de difficulté, et d'ailleurs, les requérants n'en évoquaient pas vraiment, sur la conception du dispositif. Le seul problème, c'était de faire en sorte que l'administration n'ait pas la main trop leste et ne s'empare pas de contenu douteux, mêlé d'offres de stupéfiants peut-être, mais aussi d'autres choses. Et c'est tout le sens de la réserve d'interprétation qu'a réalisée le Conseil constitutionnel, qui consiste à dire d'accord pour ce dispositif, qui est par ailleurs encadré, il y a des garanties, il y a l'ARCOM dans la boucle, il y a un droit de recours, il y a du contradictoire avec bien entendu les émetteurs de contenu. D'accord pour ce dispositif, à condition qu'il soit centré uniquement sur les contenus où il est manifeste qu'il s'agit de vente illicite de stupéfiants. Dès qu'il y a doute, c'est pas possible. Et donc c'est à la faveur de cette réserve d'interprétation que le Conseil constitutionnel a validé la disposition.
Alors, on va continuer cet examen de la loi avec vous, avec ces explications précieuses, pour aller vers d'autres mesures. Il y a des mesures de procédure pénale qui sont reprises, qui sont intensifiées pour venir faciliter l'utilisation de techniques d'enquête, de techniques spéciales d'enquête. Plusieurs dispositions dans le code de procédure pénale se trouvent déjà à cette fin dans le cadre de la recherche d'infractions. Elles sont dans la partie dérogatoire du code, non pas liées donc au droit commun. Parmi ce qui n'était pas encore présent et ce qui a été en discussion, ce qui est revenu en discussion devant le Conseil, la question de l'activation à distance d'appareils électroniques fixes et mobiles aux fins d'enregistrer l'image et le son dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée. Alors, cette disposition dont je vais dire un mot avant de vous donner la parole, elle a été très attendue par les services d'enquête. Techniquement, ce dont il est question, c'est de permettre aux enquêteurs l'activation à distance d'objets connectés, d'appareils électroniques ou de téléphones mobiles, afin d'écouter, de filmer à leur insu les personnes visées. Donc on obtient comme ça une géolocalisation de l'individu en temps réel, la possibilité d'écouter ses conversations, de visualiser toutes les images qui seraient captées par l'objectif du téléphone notamment. Ce dispositif, il était prévu déjà dans un projet de loi sur la justice de l'ex-garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti. Ça avait fait l'objet d'une censure à l'époque du Conseil constitutionnel. On était fin 2023. On arrive aujourd'hui à une nouvelle proposition du texte. Aurélie Bretonneau, quel est le cheminement à nouveau pour que le Conseil ici valide cette fois le dispositif ?
Eh bien, décidément, vos propos introductifs étaient extraordinaires parce qu'on est encore exactement dans cette problématique de menaces plus ou moins grandes. En 2023, quand le Conseil constitutionnel a été saisi d'une première mouture de loi permettant l'activation à distance d'objets connectés, y compris mobiles, hein, puisque en 2023, c'est cette partie-là qui a été censurée, le Conseil constitutionnel a estimé de façon assez évidente que la technique était évidemment extrêmement intrusive pour la protection de la vie privée. C'était quand même difficile de dire autre chose. Et que face à cela, elle n'était pas nécessairement exclue par principe, parce qu'en face, on peut avoir des besoins absolument nécessaires au maintien de l'ordre public qui peuvent justifier cette activation à distance. Il faut bien voir que est en jeu, mais vous l'avez dit, une efficacité des services de renseignement, également une protection des agents qui en sont chargés, puisque l'activation à distance dispense de s'introduire dans un lieu privé et permet ainsi...
Oui, des méthodes de sonorisation ou d'autres
exactement,
techniques
qui sont
intrusives, mais qui nécessitent...
Intrusives, difficiles, mais aussi risquées pour potentiellement la vie
d'enquête.
Des personnes qui s'introduisent dans les lieux en question. Donc, il y a un enjeu évident. Cet enjeu, il peut justifier, c'est ce qu'avait dit le Conseil constitutionnel en 2023, il peut justifier une activation à distance peut-être d'appareils mobiles, mais pas... pour tout et n'importe quoi. Et en 2023, ce qu'avait censuré le Conseil constitutionnel, c'était le champ trop large des infractions auxquelles s'appliquait ce dispositif d'activation à distance. Le législateur, dans le cadre d'un dialogue fructueux avec la juridiction, a repris sa copie et a cherché à l'entourer des garanties en termes de restriction du champ des infractions qu'il n'y avait pas dans la copie de 2023 et qui répondait à ses yeux aux garanties exigées par le Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel a estimé que cette fois, la barre était correctement placée et que la restriction à celle des infractions les plus graves dans le champ du narcotrafic, puisque auparavant, voilà, c'était dès lors qu'on était dans le champ des infractions de narcotrafic, on attrapait presque tout. Cette restriction à des infractions très graves justifiait que pour ces infractions très graves, on puisse réaliser l'activation à distance. Et donc voilà, changement.
Et donc là, sur appareil fixe ou mobile, vous rappelez à juste titre qu'en 2023, on était sur le fait d'un appareil mobile. Là, on a une symétrie qui s'observe entre les articles 38-39 de la loi, et on parle d'un appareil fixe comme mobile avec une symétrie dans la construction des textes. Est-ce qu'on est sur des enjeux qui sont vraiment identiques et...
Alors c'est effectivement un point que vous avez tout à fait raison de souligner parce qu'il est important. Il y avait deux articles dans la loi, enfin il y a deux articles dans la loi, le 38 et le 39. Le 38 sur les appareils fixes, le 39 sur les appareils mobiles. Optiquement, la décision du Conseil constitutionnel, effectivement, ne distingue pas les deux. La motivation est comparable sur les deux appareils. En réalité, ça ne veut pas tout à fait dire que sa grille d'analyse est complètement la même. On voit bien ce qu'il peut y avoir de plus intrusif à activer des appareils mobiles. Les dispositions législatives prévoient en réalité des garanties un peu supérieures s'agissant des appareils mobiles. En particulier, alors il y a des questions de motivation de la décision du juge qui sont un peu plus strictes. Il y a une restriction du champ de la nécessité de l'activation des techniques au regard de la manifestation de la vérité. Mais peut-être le plus important, c'est que le législateur, d'une part, a pris soin d'interdire l'activation dans certains lieux. Évidemment, ça ne se pose pas pour les appareils fixes, puisqu'on sait où on active ou on n'active pas, et donc on peut d'emblée délimiter le champ. Pour les appareils mobiles, ils peuvent se balader partout, et donc le législateur a prévu qu'une désactivation était nécessaire quand on pénétrait dans certains lieux, par exemple les lieux où on discute avec son avocat, les établissements de presse.
Cet encadrement, il est important.
Et il est absolument fondamental. Et il y a aussi une restriction de la durée des captations qui fait en sorte qu'on ne capte pas en continu et en permanence, et que donc les services d'enquête fassent l'effort de cibler en réalité. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Parmi les garanties un petit peu impalpables, il y a le fait que les services d'enquête ne soient pas autorisés à ramasser tout ce qu'ils peuvent, puis à faire le tri. Il faut que le législateur ait prévu des modalités faisant en sorte que les services d'enquête, d'emblée, nativement, ciblent. Et puis après, il faut encore un tri. Mais ils n'attrapent pas toutes les données disponibles. Et donc derrière une motivation similaire pour l'article 38 et l'article 39 se cache en réalité un degré d'exigence tout de même un peu plus élevé pour l'article 39, mais que le législateur avait en quelque sorte anticipé.
Alors Laurent Bonnet, par rapport à ça, on l'a dit, la question sous-jacente, filigrane, c'est la question de l'équilibre vie privée, efficacité des investigations. Est-ce que vous voulez réagir là-dessus ?
Oui, je pense qu'il y a une tendance très générale, enfin j'irais historique, hein, qu'on retrouve sur la longue durée, des services enquêteurs à demander un élargissement permanent de leur capacité d'action et une limitation des garde-fous qui les encadrent. Enfin, c'est quelque chose qui est quelque chose de tout à fait classique, je dirais, au nom de l'efficacité. Voilà, au fond, pour être efficace, il faut pouvoir faire beaucoup de choses et pas être trop contrôlé. Bon. Alors, vous avez un discours, mais qu'on retrouve dès la fin du 19e siècle, hein, sur les criminels ont toujours un train d'avance sur nous. Hein, c'est un discours, c'est un leitmotiv qui revient en permanence. Je pourrais vous citer de mémoire, hein, des moments où les gens disent, voilà, les criminels, ils peuvent passer les frontières, ils bénéficient de questions technologiques beaucoup plus élevées que nous, etc. Et à l'époque, on parlait du bateau à vapeur. Vous voyez, hein, c'était vraiment, bon, c'est vraiment intéressant. Et ça, vous l'avez, je dirais, de manière absolument récurrente. Bon. Le problème, il est, je crois que là, il faut sortir de la simple équation de l'efficacité. Une société ne peut pas simplement se baser sur la question de l'efficacité. Parce que dans ces cas-là, je dirais, exécuter des détenus, c'est beaucoup moins cher et beaucoup plus efficace pour éviter la récidive que de les maintenir en prison. Bon. Donc la question de l'efficacité, elle est évidemment importante, mais on ne peut pas se limiter à cela. Je pense que ça a été signalé tout à l'heure, vous l'avez très bien dit. Bon, il y a la question de la proportionnalité, il y a la question du contrôle et il y a la question de l'éthique. Bon. On se rend compte qu'en matière répressive, au nom de l'efficacité, on a par exemple fait quelque chose de très commun, là aussi, qui revient de manière récurrente dans l'histoire des services de police et de renseignement en France et ailleurs. C'est par exemple la spécialisation de petits groupes. Par exemple, on va prendre des petits groupes d'enquête spécialisés sur un dossier en particulier, on va les concentrer. Et on se rend compte, je dirais, quand vous le prenez sur la longue durée, que c'est toujours là que ça merde. C'est toujours là qu'on a les bavures. Et ce qui est en train de se passer à Marseille avec l'OFAST, vous le voyez parfaitement. On constitue à un moment donné un petit groupe, vous voyez, qui est doté de moyens très particuliers d'enquête parce qu'il est censé travailler sur quelque chose de très très grave. Et vous voyez bien que très rapidement, on s'affranchit des procédures, on pose des caméras alors qu'on ne devrait pas. On fonctionne en petit groupe, vous voyez. Et ça amène, vous voyez, effectivement, toute une série de choses qui sont désastreuses au point de vue du processus pénal. C'est-à-dire que tout simplement, des grosses enquêtes se retrouvent tout simplement invalidées du point de vue tout simplement du droit. Mais également, et c'est sans doute plus grave à mon avis, du point de vue de l'action publique. L'action publique, ce n'est pas simplement l'efficacité, c'est aussi la légitimité. Or, pour qu'une action publique soit légitime, pour que la justice soit légitime, pour que la police soit légitime, ça nécessite précisément d'être très prudent sur ce que l'on autorise et l'on n'autorise pas.
Alors, on va reparler du cadre, l'égalité, loyauté, éthique. Enfin, on est sur des notions effectivement qui sont importantes pour borner la marge de manœuvre. Alors, spontanément, on a évoqué, alors qu'on était dans la catégorie judiciaire dans les propos précédents, on a glissé vers la question du renseignement. Et effectivement, on peut y glisser parce qu'au-delà des techniques dont on parle et qui sont utilisées dans le cadre judiciaire, certaines mesures ont pu être discutées également parce qu'elles visent au renforcement du renseignement administratif en matière de lutte contre le narcotrafic. C'est un autre volet de cette loi. Dans ce volet-là, parmi les articles qui ont pour le coup été censurés par le Conseil, on trouve l'article 15 qui autorisait les services de renseignement à expérimenter jusqu'à fin 2028 la technique particulière du algorithmique en fait pour détecter des données de connexion et des adresses URL pouvant révéler des menaces liées au trafic de drogue et d'armes. Cette technique, elle est réservée depuis 2021 à la lutte contre le terrorisme. La loi narcotrafic voulait l'étendre à la criminalité et la délinquance organisée. Aurélie Bretonneau, techniquement, de quoi il est question ?
Alors, d'abord, le législateur a pris cher sur cette disposition, puisque non seulement le Conseil constitutionnel a censuré la disposition de la loi narcotrafic qui étendait cette possibilité à une nouvelle finalité de lutte contre le narcotrafic, mais en plus, par la même occasion, il a attrapé à la source la difficulté qu'il identifiait, en censurant également, par ricochet, exactement, dans le code de la sécurité intérieure, la disposition qui permettait préalablement, depuis 2021...
L851-3.
Exactement. De procéder à ce traitement algorithmique pour des finalités terroristes. Alors, la question de la surveillance par algorithme est évidemment très intéressante et sans doute, techniquement intéressante et puis sans doute porteuse d'une certaine efficacité, même si on en est encore au balbutiement technologique sur la question. Elle permet... Alors, c'est pas tout à fait la même problématique. Là, on ne sait pas qui parle, on ne sait pas à qui on s'adresse, mais on surveille sur Internet, en l'occurrence, des mouvements, des connexions. On a un algorithme qui est paramétré pour s'affoler quand il détecte des processus qui se combinent entre eux d'une manière effrayante. Le Conseil constitutionnel, qui, dans le cadre de l'instruction de la loi narcotrafic, s'est posé pas mal de questions techniques. Les membres du Conseil constitutionnel font des efforts, mais évidemment, c'est pas des spécialistes de la technique algorithmique, a auditionné, comme il peut le faire, en qualité d'expert, le président, en l'occurrence, de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Et l'exemple qui était pris, voilà, c'était de dire, et qui était un exemple volontairement pédagogique, c'était de dire, bah, par exemple, c'est pas du narcotrafic, mais imaginons pendant les Jeux Olympiques, on a des gens qui vont consulter toutes les plein de pages qui détaillent avec une grande précision le cheminement de la cérémonie d'ouverture des JO, et puis qui après vont consulter des pages sur comment faire une bombe. Bon, bah là, on peut imaginer un algorithme qui est paramétré pour dire, attention, problème, peut-être il faut s'intéresser à ces connexions. Donc évidemment, je vous doutez bien que c'est un exemple.
Ça caricature, mais ça explique bien l'idée.
Mais ça explique. Voilà. Donc c'est ça l'idée de cette surveillance algorithmique. Cette surveillance algorithmique, elle existe toujours après la décision du Conseil constitutionnel pour des données particulières qui sont des données de connexion, qui peuvent renseigner les services de renseignement sur un certain nombre de connexions qui sont réalisées par des personnes suivies. Il faut une autorisation du juge, enfin tout ça est extrêmement encadré, pour savoir qui parle avec qui. Ce qui était proposé depuis 2021, c'était de surveiller sur Internet les adresses, les connexions via les adresses URL. Ce qui est compliqué avec les adresses URL, c'est que ce n'est pas juste des métadonnées habituelles, ce n'est pas des numéros, ce n'est pas des points sur un graphique, c'est révélateur en partie du contenu des correspondances. Et ça l'est de deux façons. Et ce qui est compliqué, c'est que c'est très difficile à normer, que ce n'est pas toujours le cas, mais La première façon, c'est que dans l'adresse URL elle-même, selon sa profondeur, on peut avoir des indications sur le contenu de la page qui est consultée par les gens. Si plus vous descendez dans l'architecture d'un site, plus vous allez voir que la personne consulte, j'en sais rien moi, un site sur l'atelier Sabin. Ça va apparaître après quelques slash dans l'adresse URL. Et puis surtout, une fois qu'on a l'adresse de quelqu'un, on peut aller chez lui. Et de la même façon, une fois qu'on a l'adresse URL, on peut aller sur le site. Et là, ça pose la question en particulier des sites de conversation et d'échange qui, selon qu'ils sont plus ou moins sécurisés, peuvent, dans certains cas, permettre à partir de l'adresse URL d'accéder directement à des contenus de conversation.
Oui, parce qu'il y a la question du chiffrement qui vient s'ajouter à ça.
Exactement. Or, comme vous le savez, Internet est une jungle très peu normée et il y a tout un tas de choses très différentes dont on ne peut pas espérer qu'elles soient toutes calibrées de la même manière. Donc, ça, c'était la grosse nouveauté, c'est que on brassait des contenus et pas seulement des petits points sur un graphique. Et le Conseil constitutionnel a estimé que cette faculté très large de brasser tout un tas de contenus avec pour seule garantie le fait qu'il y a une commission administrative qui est au demeurant et fait très bien son travail, qui surveille les paramètres de l'algorithme sans que le législateur ait prévu le moindre encadrement des types de critères qu'on pourrait entrer dans l'algorithme, probablement d'ailleurs parce que le législateur n'est pas encore capable de le faire. Il faut savoir que la possibilité ouverte en 2021, pour l'instant, elle n'est pas utiliser de façon effective, parce que c'est très compliqué de paramétrer un algorithme qui brasse tout le bruit d'Internet sans générer des faux positifs en permanence. Le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur se départissait trop de sa compétence, se reposait trop sur les autorités administratives, et que ce n'était donc pas possible, et que donc, sans doute, l'heure n'était pas venue, si on ne savait pas encore formaliser des critères, de se lancer dans cette aventure.
Laurent Bonelli, vous voulez réagir ?
Oui, donc très rapidement, c'était expliqué, mais je pense qu'il y a là une dynamique qui est là aussi très, très congruente avec d'autres lois. Hein. C'est finalement le glissement d'un certain nombre de mesures qui ont été prises en matière antiterroriste, on le voit bien, qui, par capillarité, finalement, s'étendent, je dirais, à toute une série de contentieux de plus en plus larges. Donc je ne vais pas rentrer sur la question des algorithmes, simplement juste pour dire qu'effectivement,
ce lien terrorisme, effectivement, et criminalité organisée, on a un glissement ici.
Il y a un glissement très net, mais pour demain, il sera sur chose, etc. Ouais. C'est-à-dire qu'en réalité, on se rend compte, et notamment l'envahissement des logiques administratives dans les logiques pénales est absolument net. Mais bon, je vais pas le développer.
Alors on poursuit sur les aspects techniques. Il en reste un ou deux dispositifs dont je voudrais qu'on parle, parce qu'à l'inverse, le dispositif expérimental des interceptions satellitaires, lui, il a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2028, alors qu'il devait prendre fin prochainement, là, en juillet. Ici, ce dont on parle, c'est le fait que les services de renseignement disposent de la faculté d'intercepter eux-mêmes, grâce à un dispositif de captation spécifique des correspondances émises ou reçues par la voie des satellites, sans avoir à solliciter le concours d'opérateurs de communication et des communications concernées. Donc là encore, on est face à un dispositif qui est dérogatoire du droit commun, des interceptions de sécurité, qui va reposer sur la réquisition de ces opérateurs pour effectuer une telle interception, dans le but de prévenir des atteintes particulièrement graves à l'ordre public, contre le terrorisme, la criminalité organisée. Alors, on a une démarche inverse. Pourquoi ici, on a cette prolongation ?
Alors, effectivement, la problématique est proche, puisqu'on a ce même risque de chalutage un peu large d'informations. C'est dans le contrôle de proportionnalité qu'a exercé le Conseil constitutionnel qu'il a estimé que là, cette fois, l'encadrement était suffisant. Sur ce point, la décision, elle est relativement sans mystère, elle s'explique d'elle-même. Alors, comme vous l'avez dit, ce qui est important dans le dispositif d'interception satellitaire, c'est qu'on ne passe pas par les opérateurs. Donc les services de renseignement eux-mêmes peuvent aller chercher des informations, ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour les interceptions de sécurité par voie aérienne. C'est ça qui fait la sensibilité du sujet. Donc le Conseil constitutionnel, face à cette faculté, est toujours dans le souci de vérifier que les services de renseignement ne peuvent pas brasser très large, puis ensuite faire leurs petites affaires, mais sont dès le début encadré par le législateur, est allé voir les garanties qu'avait posées la loi pour ces opérations. Il a constaté plusieurs choses. D'une part, les finalités sont extrêmement circonscrites. On est sur des finalités de recherche d'infractions très grave. D'autre part, il y a un processus administratif qui n'est pas anodin. Il y a une autorisation du Premier ministre, elle-même rendue après avis de la Commission nationale des techniques de renseignement. Donc, on a vu avec l'algorithme que ça ne suffit pas. Et évidemment, ce n'est pas rien non plus. Et dans le cadre d'un faisceau d'indices, ça rentre évidemment en compte. Par ailleurs, l'autorisation est délivrée pour une durée limitée. C'est 30 jours, donc c'est circonscrit dans le temps. Et je dirais presque surtout, d'une part, il y a une voie de recours particulièrement adaptée aux interceptions de sécurité devant une formation spécialisée du Conseil d'État qui dispose de pouvoirs d'investigation particuliers pour aller auditionner vraiment de près ce qu'ont fait les services de renseignement et apporter une réponse totalement éclairée à la question de savoir s'il y a ou pas une illégalité. Et par ailleurs, cette technique conserve un caractère subsidiaire par rapport aux interceptions de sécurité de droit commun, c'est-à-dire que quand il est possible de procéder en passant par les opérateurs, on passe par les opérateurs. Et c'est de façon subsidiaire que sont autorisées ces techniques.
Alors, même si on n'en dira pas énormément, parce que finalement, la disposition, elle n'est pas arrivée devant vous, je voudrais quand même qu'on évoque rapidement la question, une question qui avait été censurée, mais dès l'issue des discussions parlementaires, qui est la question des backdoors, qu'on traduit de façon maladroite en français par la question d'introduction de portes dérobées, donc ce qui va constituer un moyen secret non autorisé pour contourner les mesures de sécurité normales d'un appareil pour accéder à un système informatique, un réseau, une application. Avant d'être censuré par l'Assemblée nationale, c'est une disposition qui imposait aux messageries cryptées comme Signal, Telegram de permettre techniquement aux services de renseignement d'accéder aux échanges cryptés des narcotrafiquants et criminels. Alors c'est peut-être avec vous qu'on peut en discuter un instant, Laurent Bonelli. Ce type de mesure, là encore, c'est très symbolique de la tension entre recherche et besoin d'efficacité de l'enquête que vous discutiez il y a un instant, et en même temps respect des droits fondamentaux. Est-ce que vous voulez réagir sur cette disposition qui n'a pas abouti, mais qui, à mon avis, va revenir.
Elle va revenir systématiquement.
Dispositif revient systématiquement.
Je pense que ce qu'il faut, si on veut penser à ce type de mesure, au-delà de la question technique, c'est finalement le caractère de son acceptabilité, finalement, politique et sociale. Et je pense que cette acceptabilité, elle est rapportée aux standards qui sont ceux de la vie privée. Bon. Est-ce que si on propose ces mesures-là sur l'ensemble des citoyens, c'est acceptable ? À l'évidence, non. Tout le monde va dire, c'est absolument pas acceptable. Et on revient donc à ce dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, pour que ça soit acceptable, il faut construire finalement des groupes qui sont à ce point menaçants que finalement, eux, sont à mettre à l'écart, finalement, du droit commun. Bon. Alors, des terroristes, des narco-trafiquants. Il faut à un moment donné qu'on ait cette forme, vous voyez, d'altérité irréductible. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont vraiment pas comme nous. Et donc, ils ne peuvent pas bénéficier des mêmes systèmes de protection qui sont ceux des citoyens ordinaires. Et c'est très intéressant parce que si on revient un peu sur qu'est-ce qu'on sait en fait de ce qu'on appelle le narcotrafic, le crime organisé, etc. C'est dommage parce qu'il y a véritablement une littérature abondante du point de vue de la sociologie, de l'anthropologie sur le fonctionnement des organisations criminelles. Quelqu'un parlait tout à l'heure d'ubérisation. Oui, c'est une ubérisation, il y a une ubérisation, mais qui n'est pas liée à une sorte de très grande centrale qui ensuite aurait des travailleurs détachés. C'est qu'on se rend compte que l'essentiel finalement des organisations criminelles sont des organisations désorganisées. Il y a un très beau livre de Peter Rutter du début des années 80 qui s'appelle « Disorganized Crime », c'est-à-dire qu'en réalité, quand vous faites une attention très importante sur les organisations criminelles, vous vous rendez compte que c'est chaotique, c'est décentralisé, c'est très peu organisé, c'est très peu durable dans le temps, etc. Quand vous discutez avec des policiers, quand ils parlent de trafiquants, ils parlent la plupart du temps de PME de la drogue. Mmh. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que c'est compliqué ? Parce que si vous aviez des organisations aussi organisées, aussi solides, aussi institutionnalisées, ça serait très facile de les démanteler. Et une fois qu'elles auraient été démantelées, elles n'existeraient plus. Le problème aujourd'hui, c'est qu'effectivement, vous en démantelez une, et le lendemain, évidemment, une autre a pris la place, parce que précisément, c'est extrêmement simple. Alors, vous voyez, tout simplement, je pense que c'est ça qu'il faut avoir en tête, vous voyez, quand on réfléchit à ça, c'est finalement, vous voyez, quand je parlais tout à l'heure, vous voyez, vous construisez finalement un grand ennemi face à vous pour pouvoir déployer un certain nombre de mesures. En réalité, vous voyez bien que on est très très loin, finalement, de cette réalité qui est celle aujourd'hui de la question des stupéfiants. Et cette idée, vous voyez, de l'altérisation, c'est-à-dire de la séparation, vous voyez, qu'il y aurait dans nos sociétés le bien et le mal, finalement. Qu'il y aurait des citoyens qui seraient redevables, finalement, de la loi ordinaire, et d'autres qu'on pourrait laisser à l'écart, c'est véritablement, sans doute, le fondement et le problème de ce type de mesure.
Alors, pour terminer l'aperçu numérique de la loi, outre l'extension des techniques dont on vient parler, des techniques d'enquête, de renseignement, c'est aussi la question, un peu sous-jacente, de leur dissimulation dans le dossier de procédure qui a été soulevé par la question du recours à une autre méthode, inspirée du droit belge, la technique dite du procès-verbal distinct, ou dossier coffre. C'est une disposition importante de la loi, donc on ne peut pas ne pas en parler ensemble. Concrètement, ça va permettre de ne pas faire figurer au dossier d'une procédure pénale certaines informations portant sur la mise en œuvre de techniques spéciales d'enquête, typiquement des écoutes ou autres, lorsque leur divulgation pourrait mettre gravement en danger une personne. Aurélie Bretonneau, d'un point de vue textuel et sur le cheminement du Conseil, quels sont les termes du débat ici ?
Alors, c'est un débat très intéressant et la décision sur ce point du Conseil constitutionnel est intéressante à comparer aux autres parce que depuis tout à l'heure, on parle beaucoup dans le raisonnement du Conseil constitutionnel de peser de proportionnalité. C'est normal. La Constitution, elle est faite de plein de principes qui ne vont pas forcément tous dans le même sens et donc le Conseil constitutionnel concilie et donc il regarde si c'est proportionné. De temps en temps, il a besoin de dire qu'il y a des absolus qu'on ne peut pas franchir et c'est ce qu'il a fait en censurant un morceau de la disposition relative au dossier coffre, en censurant de façon absolument radicale la possibilité à laquelle on pouvait être amené de condamner pénalement quelqu'un sur la base d'informations dont il n'aurait pas pu pleinement débattre, qui n'auraient pas été entièrement, dans toutes leurs modalités, soumises au contradictoire. Donc c'est une censure qui est un petit peu différente des autres, un raisonnement qui est un petit peu différent des autres et qui est intéressant parce que c'est pas souvent que le Conseil constitutionnel est confronté à un anéantissement d'un principe constitutionnel. Alors, de quoi est-il question ? C'est quelque chose qui existe déjà en partie, y compris en France, le dossier coffre. On a déjà le droit de soustraire au dossier de la procédure des données permettant l'identification de certains témoins et également certaines données relatives à la pose de techniques de géolocalisation. Et le Conseil constitutionnel avait déjà été saisi de la loi géolocalisation, et à l'époque, le dispositif voulu par le législateur permettait deux choses. D'une part, d'avoir donc ces informations qui ne sont accessibles qu'aux juges, évidemment aux services qui ont posé les techniques, mais pas à la partie en jugement. Ça permettait d'orienter l'enquête. Ça, c'était le premier volet. Le juge sait des choses, et à partir de ce qu'il obtient dans le cadre des techniques de renseignement, il peut orienter l'enquête, mais la contestation pour la partie concernée sera in fine limitée, parce qu'elle n'aura pas accès à certaines informations. Et puis, dans la loi localisation, on nous disait, par contre, on ne peut pas condamner sur ce seul fondement. On ne peut pas condamner quelqu'un sur le fondement des seuls éléments concernés par la géolocalisation en question parce que, justement, il n'en a pas débattu. Et à l'époque, le Conseil constitutionnel avait dit « Attendez, on ne peut pas condamner du tout. C'est pas possible de prendre ça dans un paquet qui conduit à la condamnation de quelqu'un alors qu'il n'a pas pu complètement débattre. » Et il avait censuré le mot « seul ». Et donc, le texte ainsi transformé disait « On ne peut jamais condamner ». Là, le législateur était revenu avec ce nouveau dispositif qui, d'une part, permet d'élargir donc, les finalités et les données concernées, qui permet toujours, dans un premier étage, d'organiser l'enquête et de l'orienter à partir de ce dossier distinct, donc avec un contradictoire limité, mais qui permettait, dans un dernier étage, dans certains cas que le législateur avait voulu exceptionnel, donc il fallait des choses très graves, des informations absolument nécessaires à la manifestation de la vérité, et puis il y avait même une soupape que la décision balaye comme étant un peu maladroite, qui consistait à dire « mais si vraiment c'est trop grave pour la défense de l'intéressé, alors c'est plus possible ?» Bon. Donc dans des cas qu'il avait voulu très restreints, il disait « quand même parfois on peut condamner sur ce fondement ». Et c'est là que le Conseil constitutionnel dit « non, ça, on vous l'a déjà dit une fois, on vous le redit, mais de façon peut-être plus claire et plus pédagogique, il n'est pas possible de condamner quelqu'un sur le fondement d'éléments de preuve dont il n'a pas pu discuter tous les paramètres, parce qu'évidemment, ce ne sont pas les contenus qui sont dans le dossier coffre, c'est uniquement les données, qui bien a sûr posé quoi, à quel moment, mais même ça, ce n'est pas possible. »
Laurent Bonnet, est-ce que vous voulez réagir à ça ?
Bien sûr, je crois que là, il y a deux éléments de réflexion rapide. C'est, le premier... C'est toujours l'argument, vous voyez, de la gravité et de la nouveauté. En réalité, est-ce que dans les dossiers criminels, c'est la première fois qu'il y a des informateurs qui donnent des informations sur des gens, qu'il y a des témoins qui témoignent, etc. Je dirais que depuis que le droit pénal existe, je dirais que les procès sont comme ça. Donc, vous voyez, l'immense nouveauté, vous voyez, d'informateurs en danger, en réalité, vous voyez bien qu'elle ne tient pas. Je dirais quand on fait simplement un petit pas de côté. C'est le premier élément. Deuxième élément, et c'est quelque chose qu'on a déjà suggéré dans cette émission, vous voyez bien là comment on glisse finalement de logiques qui sont les polices de police judiciaire, de contradictoire, à des logiques de renseignement. Le renseignement, j'ai envie de dire, Je parle évidemment sous votre contrôle, peu importe la manière dont ils obtiennent des renseignements. Beaucoup de choses se font, mais ce n'est pas si grave en renseignement parce que ces logiques ne sont pas probatoires. Elles nourrissent des dossiers, elles nourrissent des logiques. Là, on est en train de parler de choses qui viennent tout simplement décider de l'existence de gens, c'est-à-dire de condamnation, etc. Et tout ce qui est souscrit, tout ce qui soustrait pardon, l'administration de la preuve à tout ce qui est la question du contradictoire, bah, tout simplement, évidemment, pose énormément de problèmes.
Alors, on arrive au dernier temps peut-être de cet échange, une question un peu d'ouverture. On a beaucoup parlé d'un texte répressif, mais au-delà, il y a une question qui revient, qui est désormais celle du rôle de l'État dans l'établissement d'une véritable politique de prévention pour lutter contre le phénomène. Alors, question quand même d'importance, est-ce que l'État va remplir aujourd'hui, à votre avis, ce rôle, ou est-ce qu'on est encore dans un élément qui reste manquant ici ?
Alors, je pense que vous savez que cette loi, elle est très largement issue d'un rapport parlementaire, hein, d'un rapport sénatorial. Ce rapport sénatorial, alors, vous voyez, sortir la France donc, des griffes, sortir la France des griffes du narcotrafic, bon, on l'a compris. C'est intéressant, si vous prenez ce rapport, on peut faire des recherches très facilement sur les PDF. C'est tout simplement sur ce rapport qui fait 655 pages, voilà, 655 pages, le mot médecin est mentionné une fois. C'est intéressant. C'est-à-dire que vous voyez bien que c'est presque une blague en réalité. On a un texte, vous voyez, qui s'intéresse à la question de la drogue et qui mentionne une fois dans le texte la question médecin, et il y a une recommandation un peu vague en disant que finalement ça serait pas mal de faire des politiques de prévention. On a une situation qui est intéressante. On est dans un pays dans lequel la consommation d'alcool a diminué, dans lequel la consommation de tabac a diminué et dans lequel la consommation de drogue a augmenté. Juste deux chiffres, je vous les donne rapidement. 12,7% des gens ont touché au cannabis en 1992. C'est plus de 50% aujourd'hui. La cocaïne, vous voyez, ça a été multiplié par 10 sur la même période. Bon. Donc ça, je dirais, ça amène un certain nombre de questions, vous voyez, qui ne sont pas des questions sécuritaires. Pourquoi dans une société, vous voyez, des gens consomment des stupéfiants? L'émission que vous avez mise en introduction de celle-ci était absolument absurde. C'est le marché qui crée le besoin. Non, les gens consomment des stupéfiants parce que il y a un moment donné. Et qui consomme des stupéfiants ? Ce sont les méchants trafiquants dont on a parlé, ou c'est l'ensemble de nos sociétés, nos étudiants, nos voisins, les cabinets ministériels. Bref, est-ce que la consommation de stupéfiants, elle est limitée à certains groupes particuliers ? Absolument pas. Et vous voyez bien que, je pense que là, on a quelque chose qui est véritablement singulier, qui, du point de vue, je dirais, des sciences sociales, est presque amusant, je dirais. On a un rapport, on a une loi qui nous dit, voilà, on va attaquer les méchants trafiquants et en résoudre le problème de la drogue. Ça, il y a quelqu'un qui avait lancé cette politique, il s'appelait Richard Nixon, c'était en 1971, et ça s'appelle la guerre à la drogue aux États-Unis, avec des succès que vous considérez comme moi, sans doute, mitigés. Bon. Or, vous voyez bien que on ne fait pas de la politique avec de la morale. Je dirais, on devrait en faire un peu plus avec les connaissances des sciences sociales, savoir qu'est-ce que c'est, ce genre de choses, parce que vous voyez bien comment on est parti, là, je dirais, d'un certain nombre de mécanismes que finalement on s'interdit de penser avec ce type de disposition. Donc moi, je dirais simplement, c'est pas la France, il ne faut pas la sortir du piège, du narcotrafic. Je crois qu'il faut la sortir du piège de la surenchère sécuritaire. Je crois que ça serait sans doute beaucoup plus efficace.
Et bien on va rester sur ces mots de conclusion. Je vous remercie encore une nouvelle fois grandement d'avoir accepté cet échange.
Golden brown, texture like sun, lays me down, with my mind she runs throughout the night. Need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on the ship, tied to the mast, two distant lands, takes both my hands, never a frown with golden brown. Temptress, through the ages she's heading west, from far away, stays for a day, never a frown with golden brown.
On finit cet échange sur le morceau Golden Brown du groupe The Stranglers. Mais aussi avec cet extrait de Baudelaire, issu des Paradis artificiels de 1860.
Voici la drogue sous vos yeux. Un peu de confiture verte, gros comme une noix, singulièrement odorante, à ce point qu'elle soulève une certaine répulsion et des velléités, de nausées, comme le ferait, du reste, toute odeur fine et même agréable, portée à son maximum de force et pour ainsi dire de densité. Qu'il me soit permis de remarquer, en passant, que cette proposition peut être inversée et que le parfum le plus répugnant, le plus révoltant, deviendrait peut-être un plaisir s'il était réduit à son minimum de quantité et d'expansion. Voilà donc le bonheur. Il remplit la capacité d'une petite cuillère. Le bonheur avec toutes ses ivresses, toutes ses folies, tous ses enfantillages. Vous pouvez avaler sans crainte, on n'en meurt pas. Vos organes physiques n'en recevront aucune atteinte. Plus tard, peut-être, un trop fréquent appel au sortilège diminuera-t-il la force de votre volonté. Peut-être serez-vous moins homme que vous ne l'êtes aujourd'hui. Mais le châtiment est si lointain et le désastre futur d'une nature si difficile à définir. Que risquez-vous ? Demain, un peu de fatigue nerveuse. Ne risquez-vous pas tous les jours de plus grands châtiments pour de moindres récompenses ? Ainsi, c'est dit. Vous avez même, pour lui donner plus de force et d'expansion, délayé votre dose d'extrait gras dans une tasse de café noir. Vous avez pris soin d'avoir l'estomac libre, reculant vers 9 ou 10 heures du soir le repas substantiel, pour livrer au poison toute liberté d'action. Tout au plus, dans une heure, prendrez-vous une légère soupe. Vous êtes maintenant suffisamment lesté pour un long et singulier voyage. La vapeur a sifflé, la voilure est orientée, et vous avez sur les voyageurs ordinaires ce curieux privilège d'ignorer où vous allez. Vous l'avez voulu. Vive la fatalité.
Laurent Bonelli, Aurélie Bretonneau, que vous inspirent ces mots pour clore cet échange ? Laurent Bonelli, peut-être ?
Oui, alors, bon, je veux dire une banalité, évidemment, mais on aurait tort de mésestimer la place de la drogue dans la création littéraire, artistique, toute une série de choses, ou même intellectuelle. Bon, effectivement, elle est historiquement menée. Il y a un grand sociologue américain qui s'appelait Howard Baker, hein, qui était vraiment des pères de la sociologie de la déviance, qui a beaucoup travaillé sur la marijuana, notamment, et il disait que l'une des choses dont il se gargarisait, il disait dans ma vie, c'est d'avoir fait bouger le débat dans le monde anglo-saxon qui était centré sur le drug abuse, l'abus de drogue, sur le drug use, c'est-à-dire de passer de drug abuse à drug use, c'est-à-dire à l'usage de drogue. Il y a du plaisir dans la drogue. Et s'il n'y avait pas, il n'y a pas que du plaisir, bien évidemment, mais il y a aussi du plaisir, comme il y en a dans l'alcool, comme il y en a dans la cigarette. Et s'il n'y avait pas de plaisir, la question ne se poserait pas. Et c'est là qu'on voit que, effectivement, limiter cette question-là a une simple approche répressive, a une approche morale. La drogue, c'est mal. Bien sûr que la drogue, c'est mal. Comme l'alcool, c'est mal. Comme la cigarette, c'est mal. Mais c'est pas avec ça qu'on résout ce type de questions. On les résout avec des approches de santé publique. On les approche avec des dimensions de réduction des risques. On le résout avec toutes ces questions-là. C'est-à-dire en le prenant au sérieux. Et la France, elle est très singulièrement en retard sur ce domaine-là. Et je crains, hélas, qu'on ne s'avance pas dans une voie qui changerait beaucoup.
Merci à vous qui nous écoutez d'avoir suivi cette nouvelle émission des Temps électriques. J'y ai reçu aujourd'hui Aurélie Bretonneau, secrétaire générale du Conseil constitutionnel, et Laurent Bonelli, sociologue, professeur en sciences politiques à l'Université Paris-Nanterre. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet d'Amicus Radio, rubrique Les Temps électriques. Une émission préparée et enregistrée avec l'aide de Léobardo Arango. Je vous donne rendez-vous après l'été, maintenant, en septembre, cette fois. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission sur le site d'Amicus Radio. À très bientôt.